Good Morning Business, face à le Chypre.
Journée chinoise, hein. Donald Trump qui a terminé ses entretiens avec le président Xi Jinping. La Chine très présente aussi dans nos actualités en France. L'économie chinoise qui continue à se déployer. Ce matin, face à vous, Emmanuel Le Chypre, Jean-Marc Daniel, on va parler de ça avec vous. En Europe, les constructeurs automobiles ouvrent leurs usines sous-exploitées à leurs concurrents chinois. C'est le cas de BYD, hein, qui est en discussion dans plusieurs pays de l'Union pour essayer de s'installer sur le marché européen, alors que c'est difficile de vendre en Chine avec un marché intérieur saturé, couplé au phénomène des petits colis qui continuent de se déverser sur notre marché malgré les taxes douanières qui sont mises en place au compte-gouttes en attendant au mois de juillet la taxe européenne. Emmanuel Le Chypre, on se demande s'il sera possible de stopper cette déferlante chinoise.
Elle est d'autant plus puissante, vous citiez les petits colis par exemple, et on va voir que l'effet de cette taxe européenne, ça va être au contraire une arrivée massive, une implantation massive de ces grandes plateformes chinoises en Europe qui vont construire des entrepôts, mais qui vont rester les leaders mondiaux de ces petits colis. Alors la Chine aujourd'hui, c'est certainement pas la première puissance du monde, parce que les atouts de la puissance vont bien au-delà de l'économie, mais la Chine est incontestablement la plus grande puissance industrielle de tous les temps. Jamais on a vu une puissance industrielle aussi grande que celle de la Chine. C'est 30% quand même de la production manufacturière mondiale. C'est un pays qui, à lui seul, produit plus d'acier, de ciment, de voitures, de batteries, de panneaux solaires que le reste du monde occidental combiné. Aucun pays n'a réussi à défier les lois de la spécialisation industrielle comme la Chine. Vous savez, on dit toujours jamais un pays ne peut tout produire parce que voilà, selon les lois qui sont chères à Jean-Marc Daniel sur la spécialisation internationale, finalement tout le monde gagne à se spécialiser ce sur quoi il est le plus fort. La Chine reste le leader mondial de la production dans tout un tas de secteurs, y compris des secteurs à faible valeur ajoutée. C'est-à-dire que le champion du monde des vis et des boulons, ça reste la Chine. Le champion du monde des batteries électriques, c'est la Chine. C'est la première puissance commerciale, c'est la première puissance exportatrice, c'est la plateforme aujourd'hui du commerce mondial, et avec des atouts qui en font pour moi la puissance du 21e siècle, mais sans doute pas au-delà. Et après, on pourra revenir sur les faiblesses chinoises que Jean-Marc va sans doute mettre en avant. Mais c'est surtout la culture industrielle de la Chine. C'est-à-dire que c'est le pays qui a compris, au moment où l'Europe et les États-Unis tournaient le dos à l'industrie, que ce qui était vraiment stratégique, c'était l'industrie. C'était l'industrie, et avec des capacités de vitesse, d'exécution, d'organisation qui sont spectaculaires. L'Occident est devenu lent, réglementaire, fragmenté, tatillon, obsédé par la procédure. La Chine, elle est brutale, elle est hyper concurrentielle, elle est très verticale, elle est rapide. Le vrai pays du capitalisme aujourd'hui qui se renouvelle et qui foisonne, c'est quand même la Chine.
Jean-Marc Daniel.
Oui, je suis toujours fasciné par cette sino-béatitude. Ça fait 20 ans que la Chine doit dépasser les États-Unis. La Chine ne dépassera jamais les États-Unis. Ouais. Ça fait 20 ans qu'on nous raconte des choses sur la Chine alors qu'on ne sait pas ce qui se passe en Chine. Ce qu'il y a de frappant depuis que Xi Jinping est au pouvoir, par exemple, c'est le nombre de militaires qui se sont suicidés, qui ont avoué être des corrompus, qui ont été éliminés. Il y avait 176 officiers supérieurs en Chine. Quand Xi Jinping a pris le pouvoir, il y en a 100 qui ont disparu. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Certains, ils ont été condamnés à mort pour corruption. Mais il y en a, on ne sait même pas ce qu'ils sont devenus.
Alors, nous ne débattons pas de est-ce que la Chine est la plus grande démocratie du monde.
Non, j'entends bien. Mais j'entends bien. Mais moi, je pense que parmi les économistes que Emmanuel montre du doigt en disant qu'ils n'ont rien compris et tout ça, il y avait quand même Milton Friedman qui disait qu'un pays ne peut pas se développer durablement en économie libre, en économie productive, en économie de marché, s'il s'éloigne durablement de la démocratie. Il y a un moment où la démocratie, le jeu de la concurrence, la capacité à respecter la liberté d'entreprendre sont nécessaires à la croissance. Et on le voit en Chine, puisque la croissance ralentit en Chine. La croissance est entre 4 et 5% d'après les chiffres officiels de la Chine. Et en réalité, elle est probablement plutôt aux alentours de 2-3% au mieux. Le deuxième élément, quand on regarde les chiffres de la Chine, non pas les chiffres qu'annonce la Chine, mais les chiffres réels, objectifs, ce que l'on peut mesurer, c'est effectivement le commerce extérieur, dans la mesure où les excédents chinois sont le déficit des autres. Donc vous prenez l'excédent affiché par la Chine, elle affiche un excédent commercial pour l'année dernière de 1200 milliards de dollars. Sauf que c'est supérieur au déficit de tous les autres. Donc quelque part, on est obligé de corriger ça. Donc on corrige en disant non, mais ce qu'on mesure bien, c'est la balance des paiements courants. Et donc là, à ce moment-là, la balance des paiements courants de la Chine ne dégage plus qu'un excédent que de 735 milliards de dollars. Et donc, on pourrait dire, oui, c'est quand même énorme. Sauf qu'un pays qui a la démographie, et je vais revenir sur cette démographie, qui est un pays qui a la démographie de la Chine, devrait avoir encore plus d'excédents de balance des paiements courants pour avoir une épargne colossale, vu sa démographie, épargne colossale qui partirait effectivement en investissement à l'étranger. Or, elle a une stratégie, une structure de commerce extérieur de pays jeunes, alors que c'est un pays vieux. Et pourquoi c'est un pays vieux? Vous regardez effectivement l'évolution démographique. On annonce que, à l'heure actuelle, on a à peu près entre 18 à 20% de gens qui ont plus de 65 ans en Chine, alors qu'ils étaient 10% en 2016. Vous avez une évolution de la population chinoise qui est non seulement une baisse de la population, mais qui plus est une baisse encore plus significative de la population active. C'est-à-dire que à l'horizon de 2050, la population active aura baissé de 220 millions de personnes en Chine. Donc la Chine, c'est une maison de retraite. Et donc cette maison de retraite est une maison de retraite qui n'est pas porteuse d'avenir. Il y a un pays qui représentait beaucoup plus que la Chine dans la production industrielle et dans la production mondiale, c'était le Royaume-Uni du début du 19e siècle. En 1820, le Royaume-Uni produisait pratiquement à lui seul 50% de la production mondiale. Vous prenez les États-Unis en 1946, c'est 50% de la production mondiale. Vous apercevez que la force de ces pays, c'était non seulement qu'ils maîtrisaient la technologie, mais c'était qu'ils étaient jeunes. Et la Chine est un pays vieux.
Ça, Jean-Marc, on peut pas contester ce point. Et c'est pour ça que je disais, la Chine, si vous me demandez, et vous savez que c'est une thèse que j'ai souvent défendue ici, notamment quand Jean-Marc nous a dit qu'aussi, parce que Jean-Marc, il est bien gentil, mais alors la Chine est un pays qui va devenir une maison de retraite, les États-Unis sont un pays du tiers-monde, on aurait presque envie de dire, mais l'Europe est fabuleuse, l'Europe est formidable. Non, moi je suis convaincu, et j'ai défendu ça face à Jean-Marc cette semaine, que les États-Unis sont l'éternel pays émergent qui survivra à tout. Donc, dans un siècle, je suis d'accord avec Jean-Marc. Mais la réalité, c'est qu'en attendant, pendant les 30 ans ou les 50 ans qui viennent, la Chine est un rouleau compresseur industriel qui va tout emporter sur son passage. Et là où la vision de Jean-Marc, pour le coup, est un peu, à mon avis, décalée et dépassée, c'est que croire que c'est encore une économie où on planifie depuis les bureaux des ministères, etc., c'est pas du tout vrai. Il n'y a pas un pays qui a su organiser et faire respecter la concurrence, comme l'aime Jean-Marc, que la Chine, en luttant contre les positions dominantes, etc., il n'y a pas un pays qui innove autant que la Chine aujourd'hui, Jean-Marc. Il n'y a pas un pays qui fait autant pour la transition écologique que la Chine aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est l'usine de la transition écologique. Parce que nous, on est bien sympathiques, là, avec ce gouvernement qui veut encourager les ventes de pompes à chaleur, etc. Mais vous croyez que les pompes à chaleur, elles vont être faites en France? Ben non, on va faire tourner les usines chinoises. Donc, à 50 ans, le rouleau industriel chinois est inarrêtable.
Deux remarques. La première remarque, c'est que la Chine est le premier producteur et consommateur mondial de charbon. Pour assurer la transition écologique, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et la deuxième chose, c'est que, effectivement, les États-Unis sont en voie de tiers-mondisation. La Chine est une maison de retraite. L'avenir se joue entre Mumbai et Abidjan.